énergie allons-nous chauffer nos maisons, cuisiner ou faire rouler nos voitures dans les décennies à venir? Pourquoi pas avec du charbon propre? Mais est-ce une réponse viable pour tout le monde et son utilisation n'aggravera-t-elle pas le réchauffement climatique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos deux invités. François Calédian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur de La Nouvelle Donne du Charbon aux éditions Technip. À vos côtés, Pierre Touloat, directeur scientifique de l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. Bonjour.
Bonjour. Alors, pour rentrer dans ce dossier, je vous propose de revenir au contexte international qui a permis la renaissance de cet or noir, dont la production a plus que doublé ces 30 dernières années, alors que nous avons assisté à la fermeture de la dernière mine de charbon en France en 2004. On avait l'impression que la fermeture définitive des mines de toute cette filière qui avait marqué l'histoire de la Lorraine et du nord de la France appartenait au passé. Et l'on découvre ce retour en force du charbon partout à travers le monde. La Chine ouvrirait chaque semaine une nouvelle centrale au charbon, si ce n'est plus. Que s'est-il passé, François Calédian? Et surtout, quelles sont les raisons qui ont permis de relancer cette filière qu'on croyait appartenir au passé?
Donc, on croyait, c'est en France qu'on croyait. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, on a un système énergétique qui est assez unique, puisque pour la production d'électricité, il repose à 80% sur l'énergie nucléaire. Dans le monde, c'est pas le cas du tout. Dans le monde, l'électricité repose pour beaucoup sur le charbon, et ça a été toujours le cas. Et depuis toujours, la consommation de charbon n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, le charbon représente un petit tiers de la contribution au mix énergétique global. Alors, elle a effectivement cru beaucoup plus rapidement ces dernières années du fait du développement de la Chine. La Chine, comme vous le dites, a construit ces deux dernières années plus de deux fois la capacité française d'électricité, rien qu'avec des centrales thermiques au charbon, pour accompagner son développement et pour étendre sa production d'électricité. L'Inde aussi construit des centrales thermiques au charbon. Donc effectivement, depuis quelques années, cette croissance s'est développé, ce qui conduit à cette préoccupation pour l'ensemble de la planète qui sont les émissions de CO2.
Et qui a été aggravée par la tension sur les hydrocarbures, hein, parce que on a parlé il y a quelques années, on s'est dit on a peut-être franchi le peak oil, c'est-à-dire que ces hydrocarbures vont peut-être, je parle du pétrole, du gaz, on s'est dit on en a peut-être pour 40, 60 ans et on va se retrouver sans pétrole. Après on a dit bon, c'est peut-être pas la fin du pétrole, mais en tout cas c'est la fin du pétrole pas cher. Et puis on a vu toutes les variations. Enfin, il y a eu toutes ces tensions autour du pétrole qui ont peut-être aussi encouragé ce déplacement sur le charbon pour essayer de satisfaire les besoins énergétiques.
Le pétrole aujourd'hui est très majoritairement, à plus de 95%, utilisé pour le transport. Le charbon, lui, pour 70%, est utilisé pour la production d'électricité. On a, selon les ressources fossiles, hein, ce qu'on appelle fossiles, c'est gaz, huile, charbon, des secteurs d'utilisation bien particuliers. Donc le pétrole s'est concentré sur le transport et sera encore sur le transport pendant de nombreuses années. Et le charbon, effectivement, prend toute sa place dans la production d'électricité.
Et pour certains pays, c'est une filière économique vitale, comme l'affirme par exemple haut et fort la Pologne.
Dans les mines, on s'inquiète du système des permis de polluer qu'il faudra acheter, ce qui risque de faire grimper les prix, mais aussi d'un abandon du charbon au profit de sources d'énergie plus propres.
En tant que Polonais, je ne suis pas pour l'accord sur le changement climatique. Je pense qu'il faut augmenter les quotas d'émissions pour nous. Une fois déjà, nous avons failli fermer cette mine, et nous savons bien ce que cela signifie. La peur, la perte de son travail, tout est lié, ce n'est pas si simple.
Compania Węglowa a son siège ici à Katowice. Et c'est l'une des principales sociétés minières en Europe. Son chargé de communication est catégorique. La conversion à d'autres sources d'énergie ne peut pas se faire du jour au lendemain.
La Pologne est basée sur le charbon et pendant de longues années, elle devra le rester. Il n'y a tout simplement pas d'alternative. Même si aujourd'hui on prenait la décision de construire une centrale nucléaire, les effets de cette décision ne se feraient pas sentir avant 20 ans. Accepter certaines solutions proposées pour réduire les émissions de CO2, conduirait la Pologne à augmenter radicalement les prix de l'électricité, des hausses qui pourraient atteindre 150%.
Alors nous reviendrons sur l'aspect climat plus tard, mais vous l'avez entendu, c'est vital pour la Pologne. Alors économiquement, sur le plan mondial, que représente le marché du charbon aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on consomme un peu plus de 6 milliards de tonnes de charbon par an. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a que 15% du charbon qui fait l'objet de commerce et d'échanges et de ventes. Ces derniers temps, avant la crise qu'on connaît, le prix du charbon échangé a doublé. On est passé de $100 la tonne à $200 la tonne. Bon, ce qui a décru depuis la crise financière qu'on connaît malheureusement. Mais il faut garder en tête que la consommation du charbon, c'est sur place. Hein, c'est pas beaucoup à emporter, c'est la consommation sur place. 15% simplement est échangé. Pour revenir sur ce qui a été dit, c'est vrai que la Pologne dépend à 95% du charbon pour sa production d'électricité. La Chine, c'est 80%. L'Afrique du Sud, c'est plus de 90%. Il y a beaucoup de pays qui sont effectivement très dépendants du charbon. Et ce qui est vrai, c'est que changer un système énergétique de production, notamment de production électrique, eh bien, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça prend du temps. Il faut concevoir tout ça dans le cadre d'une transition énergétique. Fort heureusement, il y a beaucoup de charbon sur Terre. Et fort heureusement, on va pouvoir ménager cette transition énergétique vers des systèmes, ce qu'on appelle décarbonés, c'est-à-dire qui ne seront vraiment pas carbonés au départ.
Le problème du charbon, c'est que ça pollue énormément.
Oui, mais ce système énergétique, il faut du temps pour le remplacer. Et il faut donc mettre en place dès aujourd'hui tout ce qui convient de mettre en place comme technologie pour avoir un charbon propre.
Alors, avant de peut-être développer cet aspect charbon propre, vous nous dites qu'il y a beaucoup de charbon sur Terre, mais enfin, on estime qu'on a effectivement des stocks qui sont très importants pour les 150 ans à venir, oui. Et peut-être pas au-delà, parce que c'est une ressource minière limitée. On sait aujourd'hui que ces réserves, suivant les continents, dépassent rarement 230 ans pour l'Amérique du Nord, 260 pour l'Amérique du Sud, autant à peu près pour l'Europe, 92 ans sur l'Asie et le Pacifique. On voit bien que, de toute façon, ça ne peut être une solution qu'à moyen terme. Disons pour les 150 ans qui viennent.
Écoutez, 150 ans, c'est déjà pas mal. Donc ce qu'il faut espérer justement, et les gens travaillent là-dessus, c'est sur des systèmes énergétiques autres qui font appel à d'autres ressources que les ressources fossiles, puisque comme vous l'avez dit, elles sont limitées. Donc on arrivera bien un jour à manquer de ces ressources. Donc dès aujourd'hui, il faut travailler à la mise en place de systèmes énergétiques décarbonés et compter sur une transition énergétique progressive, de telle façon à passer de notre mix énergétique qui repose à 80% sur les énergies fossiles vers un système énergétique autre.
Donc d'où l'idée de faire du charbon propre.
D'où l'idée de faire du charbon propre, c'est plus qu'une idée, c'est une obligation.
Alors l'objectif de cette technique en deux mots ?
Alors le charbon propre, il faut l'entendre dans deux domaines. D'une part au niveau de la pollution locale, et d'autre part au niveau de ce qu'on appelle la pollution, enfin l'impact global, c'est-à-dire l'impact planétaire. Au niveau local, l'industrie s'est déjà fort préoccupée des questions d'émissions locales, par exemple d'oxyde d'azote, d'oxyde de soufre. On a connu dans le passé les questions de pluies acides. En France, dans l'est de la France, il y avait les pluies acides. Il n'y a plus de pluies acides. Pourquoi ? Parce que les centrales thermiques au charbon comportent des traitements qui retirent les poussières, qui retirent ces oxydes d'azote ou de soufre, de telle façon à limiter au maximum l'impact environnemental local. Et puis maintenant, le grand challenge, c'est de répondre à cet enjeu de changement climatique et donc de traiter les émissions majoritairement de CO2 pour éviter d'augmenter l'effet de serre.
Alors le premier pays producteur et le premier consommateur de charbon au monde, c'est la Chine, hein, on l'a dit. Juste derrière, il y a les États-Unis qui ont d'ailleurs les plus grandes réserves mondiales de charbon. Alors Donnée Gledu, vous êtes notre correspondante à Washington. Ce n'est donc pas un hasard si l'un des premiers projets de centrales de charbon propre est né aux États-Unis.
Alors, FutureGen, c'était un projet lancé par l'administration Bush en 2003. Il visait donc à construire une centrale pilote au charbon propre qui aurait donc récupéré le CO2 en limitant donc l'impact de la combustion du charbon dans l'atmosphère. Vous l'avez dit, il y a d'énormes réserves de charbon ici aux États-Unis et les zones minières sont aussi les zones sinistrées au point de vue de l'emploi. C'était donc intéressant de développer cette technologie qui permettrait à la fois de sauver ces régions sur le plan industriel et de réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole étranger. On parle à ce moment-là de l'époque Bush, donc on parlait très peu du réchauffement climatique à l'époque. Le projet a donc été décidé en 2003. Alors après, ça prend beaucoup de temps. Il faut mettre en place le consortium, choisir le lieu. Et le temps que tout ça soit fait, eh bien les devis avaient tellement grimpé. On était passé en quelques années de 1 milliard de dollars à 1 milliard 800 millions de dollars. Eh bien que l'an dernier, au mois de janvier, le gouvernement fédéral a décidé de tout suspendre. Le consortium est constitué, il prétend continuer l'aventure, mais évidemment sans argent public, eh bien les choses n'ont pas avancé. Tout juste sait-on que le site retenu est situé dans l'Illinois. Ça aurait en son temps d'ailleurs fortement déplu à George Bush, puisque l'Illinois avait été choisi aux dépens d'une autre implantation dans son état à lui, le Texas. Et puis l'an dernier, eh bien vous savez que les Américains avaient un petit peu autre chose à faire hein, avec la campagne électorale et la crise économique qui s'est abattu sur eux. Mais cette question de la politique énergétique aux États-Unis est quand même, et ça c'est très nouveau, une préoccupation majeure ici. Le choc de la brutale hausse des prix du pétrole l'an dernier a fortement marqué les esprits et tout le monde s'accorde désormais à dire qu'il faut faire quelque chose.
Donc ce projet FutureGen devrait aboutir puisqu'il fait partie un peu de la nouvelle politique énergétique américaine promise par Barack Obama.
Oui, Barack Obama, tout au long de la campagne, a justement énormément insisté sur ces questions énergétiques. Il ne cesse de promettre de travailler à réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole et à lutter contre le réchauffement climatique. Alors, tout au long de la campagne, il a parlé du charbon propre, sans que la majorité des Américains sache réellement ce que c'est d'ailleurs. Mais maintenant, il va falloir qu'il mette tout ça en acte. Il a promis de construire 5 centrales au charbon propre. Tout ça laisse donc à penser que le projet FutureGen pourrait être relancé. Le secrétaire à l'énergie Stephen Chu, qui est lui-même un avocat fervent de la lutte contre le réchauffement climatique, a d'ailleurs affirmé récemment qu'il travaillait à développer le charbon propre, même s'il affirme que lui-même, tant qu'il n'était encore qu'un citoyen ordinaire, pensait que le charbon était un cauchemar écologique. Relancer le projet donc, peut-être, mais en le remodelant sans doute et en y réfléchissant beaucoup. Ça va donc évidemment prendre beaucoup de temps et il faudra beaucoup de patience sans doute avant que cette centrale-là, ou plus vraisemblablement sa version modifiée, ne sorte de terre.
Merci Deneg. Cette initiative américaine est incitative ou vous la trouvez trop modérée ?
Cette initiative américaine est intéressante. Effectivement, FutureGen, c'est un programme qui s'est remanié compte tenu du coût de la première proposition. Mais je dirais qu'au-delà des États-Unis, bon, c'est très bien que les États-Unis prennent pied dans cette affaire de changement climatique et de charbon propre. Il faut voir aussi ce qui se fait en Europe. Et en Europe, on n'est pas du tout à la traîne là-dessus. Et l'industrie et les centres de recherche, dont le mien, hein, l'Institut français du pétrole, donc les centres de recherche collaborent pour mettre en place une dizaine de démonstrations très prochainement sur ce charbon propre, sur l'utilisation de centrales thermiques qui n'émettent pas de CO2.
If you want the best mahogany,
c'est pas du vent.
Keep you company, to keep you company.
Anne-Cécile Bra, Arnaud Jouve.
Oh, memory. Through all the fire memories. Oh, mahogany. You want the best mahogany. Nigerian wood. People never understood. Got to have wood that's good. Yeah. Oh, Nigerian wood. Oh, come and guess what we brought from the colonies. No ivory, just ebony. Oh, but luckily, gold is from China, luckily. Oh, colony, guess what we brought from the colony.
dans C'est pas du vent sur RFI, consacré aujourd'hui au charbon propre, une technique qui est aujourd'hui envisagée un petit peu partout, dans de nombreux endroits du monde.
Alors c'est une technique qui va nécessiter deux phases importantes, qu'on va appeler le captage, c'est-à-dire la récupération des gaz carboniques à la sortie de l'usine, et puis le stockage, c'est-à-dire que tout ce gaz carbonique, il va bien falloir qu'on le dépose quelque part. Alors je voudrais revenir à la première phase, au captage. Est-ce que le captage pose aujourd'hui des problèmes particuliers, Pierre Toulot?
Alors, le captage, en fait, repose sur trois grandes principales voies. Je ne vais pas m'étendre sur les détails techniques, mais c'est en fait essayer de récupérer à la source le plus tôt possible le CO2 qui est produit par la combustion, l'isoler, puis après le comprimer et l'évacuer vers un stockage. Certaines techniques de captage sont des techniques innovantes. Et maintenant, comme toutes les techniques innovantes, on doit, plus en amont possible, montrer qu'on en maîtrise la sécurité. Un exemple, le captage par oxycombustion, où on va faire brûler du charbon, souvent d'ailleurs sous forme assez pulvérulente, avec de l'oxygène quasiment pur, permet directement de récupérer du CO2. Donc on s'épargne les étapes de purification ou d'extraction. Simplement, ce mélange d'une matière combustible plus virulente avec de l'oxygène pur est aussi quelque chose qui est générateur de risques potentiels qu'il faut apprécier et étudier. Et notre institut, en lien avec les industriels qui développent ce genre de procédé, se penche véritablement sur cette question de la maîtrise des risques.
On peut récupérer 100% des gaz carboniques dans le charbon avec cette technologie?
90%.
Et alors, est-ce qu'il y a des risques, François Caillé-Jean, vous entendiez les propos de Pierre Toulot?
Je pense qu'il faut agir là-dedans de façon responsable. Et c'est bien l'angle que prend l'industrie, et c'est bien aussi l'angle qu'a pris le législateur, puisqu'il y a une directive, notamment portant sur le stockage de CO2, qui est parue en décembre au niveau européen, et qui insiste énormément sur toutes l'encadrement et la réglementation, notamment du point de vue des risques.
Oui, parce que là, donc, on parlait du captage. Là, maintenant, vous parlez du stockage, alors, qui est donc la deuxième phase. C'est-à-dire, une fois qu'on a capté le CO2 à travers les... Oui, vous voulez dire, Pierre Toulot?
Il y a une phase intermédiaire qui est importante, qui est le transport. Mmh. En certains cas, la production n'est pas proche du lieu où ça sera stocké.
Mmh. Et alors donc, vous vouliez dire...
Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut réfléchir en termes de génération. On a des générations de technologies de captage, transport et stockage qui aujourd'hui sont disponibles. Il y a une première génération qui aujourd'hui est disponible, qui n'utilise pas cette technique dont a parlé Pierre Toulot d'oxycombustion, mais qui utilise des systèmes beaucoup plus simples qui fonctionnent. Et puis, on prépare, au niveau recherche, les générations suivantes. À l'instar d'autres industries qui ont des générations 1, 2, 3, 4 et 5, eh bien, pour le captage, transport et stockage de CO2, on travaille également avec des générations. Et la première génération, maintenant, on en est au stade de la démonstration commerciale, de telle façon à pouvoir la mettre sur le marché en 2020 et, si possible, même un peu avant.
Oui, mais enfin, on a encore des tas de questions autour de la question du stockage. Je veux dire, aujourd'hui, ce stockage, il est encore expérimental, il y a beaucoup de problèmes. Le stockage, c'est souvent, on essaye de mettre ces gaz dans des coffres-forts géologiques. On se souvient de l'histoire du lac Nyos au Cameroun, où il y avait eu une bulle d'air qui avait tué 1500 personnes en se libérant. On se dit que ce stockage va pas se faire dans des zones très peuplées, très urbanisées, qu'il va peut-être falloir faire du stockage dans des zones isolées, il va y avoir donc le problème du transport. Enfin, sur le plan du stockage, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de sécurité?
Alors, sur le stockage, en fait, il y a différentes questions. La question et l'accident du lac de Nyos que vous avez évoqué, en fait, n'est pas quelque chose de très préoccupant pour le stockage. Pour le stockage, il y a deux questions principales qui se posent. Pendant combien de temps, effectivement, le milieu géologique va pouvoir confiner le gaz carbonique et empêcher qu'il soit de nouveau relâché dans l'atmosphère? C'est la première question. Mais il ne risque pas d'être relâché de manière extrêmement brutale. Donc ce sera des fuites lentes qui auront un impact sanitaire certainement très faible. L'autre question, ce sont les effets indirects. Le CO2 est un gaz réactif. Donc il faut regarder comment il interagit avec l'environnement géologique, avec les différents métaux qui peuvent être transportés par les fluides profonds. Donc cet impact géologique et géochimique
d'un éventuel stockage de CO2 est actuellement à l'étude et est une question qui monte en puissance, de manière à avoir une vision complète de l'impact environnemental de cette opération.
François Calaisan.
Pour compléter, hein, c'est tout à fait exact, mais pour compléter, je dirais qu'au niveau du transport de CO2, aujourd'hui, il y a des milliers de kilomètres de pipes aux États-Unis qui transportent du CO2. Voilà, il n'y a aucun accident. Donc, si on transporte du CO2 sans eau, du CO2 déshydraté, il n'est même pas corrosif. Il n'y a pas de problème de transport de CO2. Et au niveau du stockage, eh bien, on va fonctionner de la même façon que pour le captage. On va s'adresser d'abord à des sites bien connus, bien caractérisés, notamment des réservoirs pétroliers épuisés, dans lesquels on injectera ce CO2.
Pour conclure, c'est une technologie donc qui a un avenir.
C'est plus qu'un avenir, c'est une obligation. On ne pourra pas répondre à la question du changement climatique si on n'intègre pas le captage, transport et stockage de CO2.
Pierre Toulot.
Moi, je souhaiterais qu'on étende finalement cette vision du charbon propre aussi à l'amont. On a parlé des mines de charbon, de l'exploitation du charbon. Récemment, dans la presse, se faisait écho des Appalaches, qui est une zone où il y a du charbon de très grande qualité.
Point,
dans
oui.
le magazine Le Point. Et un certain nombre de personnes accusaient la relance du charbon et le charbon propre d'exercer une pression encore plus grande sur l'exploitation du charbon, avec des conséquences environnementales dans les Appalaches qui sont effectivement relativement problématiques.
François Calaisan, évidemment, voulait répondre à ça.
Je voulais compléter aussi quelque chose. C'est qu'on a parlé charbon et captage, transport, stockage de CO2. Il faut aussi avoir en tête qu'on peut associer captage, transport, stockage de CO2 avec biomasse. Et si on associe le captage, transport, stockage de CO2 avec la biomasse, on met en œuvre une pompe à CO2. Et donc, on va faire décroître significativement la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui est le but recherché.
Merci, messieurs. Il est l'heure maintenant de notre billet avec le programme des Nations Unies pour l'environnement.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras. Arnaud Jouve.
De s'intéresser à l'actualité du programme des Nations Unies pour l'environnement. Avec vous, Ibrahim Thiot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en charge de la mise en œuvre des politiques environnementales au PNUE et vous vouliez nous parler de l'année du gorille, puisque l'année 2009 c'est l'année du gorille. Et est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer tout d'abord un peu le problème de la viande de brousse?
Oui, la viande de brousse, communément comme on l'appelle, c'est une problématique assez sérieuse où traditionnellement les populations exploitaient les animaux pour leurs besoins d'alimentation locale. De plus en plus, on observe une commercialisation de la viande de brousse, de plus en plus vers les grandes villes, et maintenant on constate même une espèce de mondialisation ou de globalisation de la problématique, puisque la viande de brousse est maintenant exploitée vers certaines villes d'Europe, d'Asie ou d'Amérique du Nord. Donc cette exploitation non soutenable et non durable entraîne à court terme et à moyen terme la disparition de plusieurs espèces emblématiques, tels que les gorilles, bien sûr, les chimpanzés, les éléphants et d'autres espèces de la forêt tropicale africaine.
Alors comment est-ce qu'on peut éviter que ça se produise et comment le programme des Nations Unies pour l'environnement contribue-t-il aux efforts pour mettre fin à ce problème?
Alors il faudrait d'abord qu'on se rende compte que ces grands singes ont beaucoup de choses en commun avec l'homme, puisque nous partageons 90% d'ADN. Et donc, en quelque sorte, c'est une partie de nous-mêmes que nous sommes en train de surexploiter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait d'abord commencer par chercher des solutions pour répondre aux besoins immédiats des populations locales. Mais aussi, il faudrait essayer d'arrêter cette érosion par un meilleur contrôle des transports, des produits forestiers. On dissimule de la viande de brousse avec d'autres produits forestiers. Il faudrait une grande sensibilisation des sociétés d'exploitation forestière pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Il n'est pas acceptable que l'on ait un permis pour exploiter du bois et que finalement on exploite la viande. Il faudrait également intéresser les grandes agences financières pour qu'elles pensent, bien sûr, à trouver d'autres sources d'alimentation pour les populations locales. Qu'est-ce qu'il faut faire également? Nous, au niveau du PNUE, nous avons décidé d'organiser un match de football qu'on appelle Foot pour la forêt. Nous sommes en contact avec les fédérations nationales de football du Cameroun et du Nigeria pour organiser un match amical entre les deux équipes de ces deux pays qui sont bien sûr des pays de forêt tropicale et des pays également où la problématique est assez forte. Nous espérons pouvoir mobiliser plusieurs grands joueurs de ces deux équipes qui sont des stars et qui sont véritablement des personnes de référence pour les populations et profiter de cette occasion du match pour sensibiliser davantage et les jeunes et au-delà les autorités ainsi que les secteurs privés qui sont impliqués dans cette commercialisation de la viande de brousse.
Ibrahim Thiot, merci. Sur ces mots se termine notre rendez-vous environnement d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour évoquer des initiatives du Sud, des initiatives qui nous entraîneront au Bénin et au Togo.
À demain, même planète, même heure.